Vous écoutez On lit pour vous.
Quand TikTok recommande des suppléments alimentaires. Un texte de Florence Dancause, paru le 17 août 2025 dans la presse. La prise de suppléments gagne en popularité sur les réseaux sociaux, dont TikTok. Vitamines, minéraux et autres nutriments deviennent les nouveaux chouchous des internautes à la recherche de bienfaits pour leur santé. De nombreux influenceurs, dont des adeptes de salles de sport et même la famille Kardashian, vantent les mérites de compléments alimentaires. Plus de 2 millions de vidéos TikTok abordent la question. C'est sûr qu'il y a des influenceurs fitness que je suis qui en prennent beaucoup, témoigne Ariane Lafongazaille. L'étudiante de 16 ans en prend plusieurs. Sa liste s'est allongée dans les dernières années et elle produit elle-même du contenu sur TikTok sur le sujet. Vitamine D, chrome, magnésium, oméga-3, biotine et créatine font partie de son régime quotidien en plus d'entraînement au gym. Je les prends pour m'améliorer et être le plus en santé possible, souligne-t-elle. Beaucoup de sportifs consomment des suppléments dans un objectif de performance et d'optimisation de la nutrition, avance Eve Crépeau, nutritionniste du sport. Or, un régime alimentaire équilibré et varié devrait pouvoir remplir tous nos besoins nutritionnels, confirment les experts interviewés par la presse, et ce, même pour les sportifs du dimanche. L'argument des carences. Santé Canada s'est penché sur l'alimentation des Canadiens en 2012 et a constaté qu'un apport insuffisant de magnésium, de calcium, de vitamines A et D était assez fréquent chez les adultes. Pour Nicolas Bordenave, professeur auxiliaire à l'École des sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa, il faut toutefois qu'il y ait des signes de carence ou une carence confirmée, souvent par un bilan sanguin, avant de recommander des suppléments sur le plan individuel. C'est précisément là où s'engouffrent des influenceurs ou des compagnies. Ils vont prendre l'argument de la population à risque de carence pour vous vendre un supplément, souligne Nicolas Bordenave. La vitamine D est toutefois une exception. C'est un supplément super pertinent et fortement recommandé, surtout au Québec, à cause du peu d'ensoleillement en hiver, explique Eve Crépeau. Une autre exception, la créatine. La créatine, un complément alimentaire populaire auprès des sportifs qui cherchent à augmenter leur masse musculaire, pourrait se révéler efficace pour d'autres publics. Il y a un engouement nouveau pour la créatine. Ça permet de régénérer notre énergie rapidement, donc de récupérer un peu mieux, nous dit la nutritionniste du sport Eve Crépeau. C'est un supplément intéressant si on a une perte musculaire, une blessure. On va même l'utiliser dans les cas aigus de commotion, avance Mélanie Olivier, présidente fondatrice de Vivaï. Des études ont constaté un impact positif de la créatine pour contrer la perte de masse musculaire chez les personnes âgées, dit la nutritionniste diététiste qui le recommande, elle-même, aux femmes de 40 ans et plus. Avec les baisses d'estrogènes, la masse musculaire est plus difficile à conserver. D'autres recherches ont aussi révélé des effets positifs sur le sommeil, la mémoire et la santé mentale. Mais la créatine est toujours victime d'une image négative reliée aux stéroïdes, estime Eve Crépeau. Il y a beaucoup de mythes. Les gens ont peur d'en prendre et de devenir trop musclés ou que ce soit mauvais pour les reins. Quand trop devient dangereux. Il y a des gens qui ne sont pas conscients des apports maximaux tolérables, dénonce Mélanie Olivier. Si on le dépasse, on peut se mettre à risque. L'experte donne l'exemple de la vitamine C qui peut causer des troubles gastro-intestinaux, mais aussi des calculs rénaux en dépassant un certain seuil par jour. Le magnésium est populaire en ce moment, mais au-delà de 350 mg par jour, ça peut causer de la diarrhée, donne-t-elle comme autre exemple. Il faut également faire attention avec les vitamines liposolubles A, D, E et K, qui s'accumulent dans le foie et la graisse et peuvent atteindre des concentrations toxiques, dit-elle. Dans les cas de trop importantes quantités de vitamines hydrosolubles, elles sont pour leur part éliminées par les reins. L'urine coûte cher, commente en riant la nutritionniste diététiste. Des études ont même montré des effets délétères à long terme de la prise de suppléments, souligne le professeur auxiliaire Nicolas Bordenave. En effet, une méta-analyse américaine de 2012 a relevé que des doses élevées de certains compléments alimentaires augmentent le risque de cancer. Prendre plus de vitamines et minéraux, ça ne veut pas dire que le corps va mieux fonctionner, au contraire, dit-il. Un autre danger se cache derrière la qualité des produits. De faux produits sont vendus sur des sites comme Amazon, s'inquiète Mélanie Olivier. Des métaux lourds sont souvent détectés dans des suppléments, ajoute-t-elle. Au Canada, la qualité des produits naturels est uniquement basée sur les déclarations des fabricants. En 2021, un rapport du vérificateur général du Canada a constaté que pour 88 % de leurs échantillons de produits de santé naturels, leur publicité contenait des renseignements trompeurs. Avant de se ruer vers le nouveau supplément à la mode, les experts recommandent la prudence. On peut aller chercher les conseils d'un médecin, d'un pharmacien, d'un nutritionniste, indique Eve Crépeau. Avec tous les messages qu'on voit sur les réseaux, c'est mélangeant. Et si ça fonctionne pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour nous, avertit-elle. En savoir plus. 45,6 %. Proportion des Canadiens âgés de 1 an et plus, environ 15,7 millions de personnes, qui ont consommé au moins un supplément nutritionnel en 2015. Source Statistique Canada. C'était « Quand TikTok recommande des suppléments alimentaires », un texte de Florence Dancause, paru le 17 août 2025 dans La Presse.
Donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Un texte de la rédaction paru le 17 septembre 2025 sur le site du gouvernement du Canada. Les progrès du gouvernement du Canada en réponse aux 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. À propos de la Commission de vérité et réconciliation, la Commission de vérité et réconciliation, CVR, a été créée dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, le plus important règlement collectif de l'histoire du Canada. Entre la mise en œuvre de l'entente en 2007 et la publication de son rapport final en 2015, la CVR a passé 6 ans à parcourir le Canada et a entendu plus de 6 500 personnes. La CVR a également organisé 7 événements nationaux afin de sensibiliser le public, d'éduquer sur l'histoire et l'héritage des pensionnats indiens et de partager et d'honorer les expériences des anciens élèves et de leurs familles. Pour soutenir ce travail, le gouvernement du Canada a versé 72 millions de dollars à la CVR. La CVR a créé un registre historique du système des pensionnats indiens. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement du Canada a fourni plus de 5 millions de documents à la CVR, qui sont désormais conservés au Centre national pour la vérité et la réconciliation de l'Université du Manitoba. En juin 2015, la CVR a présenté un aperçu des conclusions documentées dans son rapport final, qui comprend 94 appels à l'action. Plus tard dans l'année, en décembre 2015, la CVR a publié l'intégralité de son rapport final en 6 volumes, y compris le document intitulé « Commission de vérité et réconciliation du Canada, appel à l'action ». Le rapport final témoigne du courage de chaque survivant et membre de la famille qui a partagé son histoire. Jalon des appels à l'action. Depuis 2015, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones pour faire progresser la réconciliation en donnant suite aux 94 appels à l'action. Enfants et jeunes, appel à l'action 1. La loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la loi, qui est entrée en vigueur en janvier 2020, a été élaborée conjointement avec des partenaires autochtones dans le but de réduire le nombre d'enfants autochtones pris en charge et de réformer les services à l'enfance et à la famille. Le 9 février 2024, la Cour suprême du Canada a confirmé que cette loi est constitutionnellement valide. Ce faisant, la Cour a confirmé la capacité du Parlement d'affirmer que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Langue et culture, appel à l'action 13. La loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 afin de soutenir la récupération, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones au Canada. Santé, appel à l'action 19. Service aux Autochtones Canada continue de collaborer avec Statistique Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et certaines organisations autochtones, comme le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations et l'Inuit Tapirit Kanatami, pour établir des indicateurs de santé qui permettent de cerner les lacunes et qui pourront faire l'objet de rapports réguliers. La première mise à jour importante de l'outil de données sur les inégalités en santé a été effectuée en 2022. Les résultats sur les inégalités sont disponibles par identité des Premières Nations vivant hors réserve, des Inuits et des Métis pour 81 indicateurs nouveaux et mise à jour de résultats en santé et déterminants de la santé. Les prochains rapports de l'initiative pancanadienne sur les inégalités en santé mettront l'accent sur le sujet des déterminants sociaux des inégalités en santé mentale au Canada. La justice dans le système judiciaire, appel à l'action 43. En 2016, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il appuyait sans réserve la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et s'est engagé à la mettre en œuvre dans son intégralité et de manière efficace. Le 21 juin 2021, la loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reçu la sanction royale et est immédiatement entrée en vigueur. Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Réconciliation, appel à l'action 53. Le 30 avril 2024, le projet de loi C-29, loi prévoyant la constitution d'un Conseil national de réconciliation, a reçu la sanction royale et est entré en vigueur le 2 juillet 2024, ce qui permet de répondre ainsi à l'appel à l'action 53. La loi garantit que le Conseil national de réconciliation sera une organisation indépendante, apolitique et dirigée par des Autochtones, qui contribuera à faire progresser la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne. Réconciliation, appel à l'action 58. Le pape François a reconnu les abus commis dans les pensionnats qui ont entraîné la destruction de la culture, la perte de vies humaines et des traumatismes permanents chez les peuples autochtones de toutes les régions de ce pays lors de son pèlerinage pénitentiel qui s'est tenu au Canada du 24 au 29 juillet 2022. Histoire et commémoration. Appel à l'action 76. Le 7 juin 2021, le ministère des Relations Couronne autochtone et Affaires du Nord Canada a lancé le programme Le Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus des pensionnats qui appuie des efforts centrés sur les survivants. Il soutient les initiatives culturellement appropriées dirigées par les communautés et qui visent à localiser, à documenter et à commémorer les lieux de sépulture associés aux pensionnats indiens et à honorer les souhaits des familles de rapatrier les dépouilles de leurs enfants. C'était « Donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation », un texte de la rédaction paru le 17 septembre 2025 sur le site du gouvernement du Canada.
Francotrope, un texte de Sylvain Sarrazin paru le 10 août 2025 dans La Presse. Coup de projecteur sur un mot de vocabulaire intriguant ou étonnant, naviguant dans l'air du temps. Carte d'identité. Définition. De langue maternelle latine autre que le français ou provenant d'un pays ayant des liens historiques ou politiques avec le français et qui est plus susceptible d'avoir recours à cette langue pour s'intégrer à la société d'accueil. Dictionnaire Usito. Formation. Composée du préfixe « franco » en rapport avec le français ou la France, et du suffixe « trope » dans le sens de « tendre vers ». Attestation. Il apparaît, en 1959, dans un ouvrage de l'essayiste Jean-François Revel, avec un sens différent, puis, en 1973, dans son sens actuel, dans un essai de l'universitaire suisse Philibert Secrétan. Enfin, il prend son envol dès 1994 au Québec. Une histoire langoureuse. Le mot « francotrope » suit son bonhomme de chemin dans notre langue, mais n'a connu son véritable essor que récemment. On le retrouve dès 1959 dans « Le style du général ». Un essai sur Charles de Gaulle. C'était alors moins lié à l'aspect linguistique et à l'immigration. Il était davantage question des gens qui se tournent vers la France de façon plus générale. Souligne Anne Rouleau, réviseur à La Presse. Après un passage en Suisse, le mot traverse l'Atlantique pour s'enraciner au Québec dans les années 1990, où il est popularisé par le mathématicien Charles Castonguay, très versé dans les questions linguistiques. Il n'a pas inventé le mot « francotrope », mais il lui a certainement donné un sens spécifique, tout en lui opposant le mot « anglotrope ». Il fait souvent une analogie avec les plantes héliotropes qui se tournent vers le soleil avec une idée d'orientation vers quelque chose. Indique notre réviseur. Un contexte politico-linguistique. Dans les médias, francotrope est relayé dès 1994 dans Le Devoir en écho aux écrits de Castonguay. Mais c'est au tournant de 2022 qu'il prolifère de façon exponentielle dans tous les médias québécois pour une raison simple. Il apparaît officiellement dans des rapports et documents gouvernementaux. Cela correspond au moment où le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, CAQ, a mis à l'avant-plan ses politiques relatives à l'immigration et à la langue française. Le mot « francotrope » est vraiment inclus dans ces dernières politiques, remarque Anne Rouleau. Par ailleurs, francotrope est utilisé, d'après nos recherches, presque exclusivement dans un contexte de politique migratoire ou d'études sur les langues parlées au Québec. Une spécificité québécoise. Au sein de la francophonie, le Québec se révèle être l'une des seules nations à faire usage du mot francotrope. Des recherches dans les médias internationaux au cours du dernier siècle démontrent que son emploi est inexistant ou limitée en dehors de nos frontières. On l'a très peu vu ailleurs dans la francophonie. Et quand c'est le cas, par exemple dans des médias algériens ou français, c'est presque toujours pour parler du Québec et de ses politiques. C'est un mot qui est donc vraiment associé à la province, constate la réviseure Anne Rouleau. Cela dit, sa définition fluctue d'une étude à l'autre, notamment dans les critères d'inclusion à la liste des pays francotropes. On se base tantôt sur celle des nations, membres de la francophonie, tantôt sur des critères plus subjectifs, en fonction de l'estimation des liens et des affinités avec la langue et la culture française. Un statut étonnant. Malgré son utilisation de plus en plus fréquente, francotrope n'apparaît dans aucun dictionnaire courant, à l'exception d'Usito, constitué par l'Université de Sherbrooke, qu'il n'a d'ailleurs intégré que très récemment, en 2024. Anne Rouleau s'est dite surprise de ne pas avoir trouvé trace d'une fiche consacrée à ce terme dans le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, OQLF. C'est étonnant, parce que le mot lui-même concerne la linguistique. On devrait probablement voir une fiche apparaître dans les prochaines années, estime celle qui a toutefois trouvé le mot dans d'autres documents diffusés par l'OQLF, ainsi que le mot « allotrope », désignant des locuteurs n'étant spontanément portés ni vers l'anglais ni vers le français. En tant que réviseur, accepterait-elle le « francotrope » dans un texte? Oui, parce qu'il est bien formé par rapport à son étymologie, que son sens est clairement établi et qu'on le trouve dans des documents gouvernementaux officiels, conclut-elle. Devinette. Parmi ces pays, lequel n'est généralement pas considéré comme francotrope? Le Sénégal, la Roumanie ou la Turquie? Réponse: la Turquie. C'était francotrope. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 10 août 2025 dans La Presse.
Chronologie des pensionnats autochtones. Un texte de la rédaction paru sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR. 1831. Ouverture de l'Institut Mohawk à Brantford, en Ontario. 1876. La loi sur les Indiens est adoptée et confère au gouvernement le droit exclusif de passer des lois au sujet des Autochtones et de leurs terres. Cette loi détermine qui est autochtone et établit les droits connexes reconnus par la loi. 1883. Sir John A. Macdonald autorise la création des pensionnats autochtones dans l'Ouest canadien. Sir Hector Langevin, secrétaire d'État pour les provinces, déclare au Parlement « Pour pouvoir éduquer les enfants correctement, nous devons les séparer de leur famille. Certains peuvent penser qu'il s'agit d'une mesure radicale, mais nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons les civiliser. » 1885. Modification de la loi sur les Indiens. Les cérémonies autochtones traditionnelles, comme le potlatch et la danse du soleil, sont interdites. 1907. Le docteur P. H. Bryce, médecin inspecteur du ministère des Affaires indiennes, rapporte que les conditions sanitaires dans les pensionnats autochtones sont un crime national. 1920. Duncan Campbell Scott, surintendant adjoint au ministère des Affaires indiennes, rend la fréquentation des pensionnats autochtones obligatoire pour les enfants âgés de 7 à 15 ans. 1951. Des révisions majeures sont apportées à la loi sur les Indiens. Les femmes sont autorisées à participer à la démocratie de bande et les interdictions concernant les coutumes et les cérémonies autochtones sont levées. 1958. Les inspecteurs régionaux du ministère des Affaires indiennes recommandent l'abolition des pensionnats autochtones. 1961. Modification de la loi sur les Indiens. Les Indiens inscrits peuvent voter sans devoir renoncer à leur statut. 1982. La loi constitutionnelle est modifiée. Elle reconnaît et confirme désormais les droits des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada. 1986-1994. L'Église unie, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, l'Église anglicane et l'Église presbytérienne présentent des excuses officielles pour leur participation au système des pensionnats autochtones. 1996. Publication du rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones. Le rapport réclame une enquête publique sur les effets des pensionnats autochtones sur des générations d'Autochtones. 1996-1998. Des recours collectifs commencent à voir le jour, y compris le recours mené par Willie Blackwater et Nora Bernard. 2005. Phil Fontaine, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, annonce un recours collectif contre le gouvernement du Canada concernant l'héritage des pensionnats autochtones. 2008. Le premier ministre Stephen Harper présente des excuses aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis à propos du système des pensionnats autochtones. 2009. Dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats autochtones, la Commission de vérité et réconciliation, CVR, s'amorce et présente des événements dans tout le pays pour écouter les Canadiennes et les Canadiens qui veulent partager leurs histoires sur les pensionnats autochtones. 2010. Premier événement national de la CVR tenu à Winnipeg, au Manitoba. 2013. Cérémonie de signature reconnaissant officiellement l'Université du Manitoba et ses partenaires comme hôte permanent du Centre national pour la vérité et la réconciliation. 2014. Événement final de la CVR tenu à Edmonton, en Alberta. 2015. Cérémonie de clôture de la Commission de vérité et réconciliation. C'était « Chronologie des pensionnats autochtones », un texte de la rédaction paru sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR.